Voilà, je. Comment dire, je. Je suis un petit peu, je sais pas, tremblant. Bien, oui, ça m'arrive hein, d'être tremblant. Et quelquefois, je suis. Enfin, je veux dire, je me sens désemparé. Un petit peu comme ce matin, mais bon. Et puis, j'ai donc un sujet de méditation de ce matin qui est particulièrement banal. Enfin, je pense que pour vous, il sera banal, mais il m'a semblé, enfin, j'avais à cœur d'en parler. Hein. Le titre de ce message, c'est la foi. C'est banal, hein. Enfin non, je ne sais pas si c'est banal pour vous, mais on en parle tout le temps, on l'a dans sa tête. Le Seigneur, il me manque de la foi. Je devrais avoir plus de foi. Quelquefois, j'ai la foi. Quelquefois, je me sens plein de foi. Et puis, il peut m'arriver, il peut vous arriver des situations où vous êtes complètement, mais comme une feuille morte, désemparé. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, les problèmes hormonaux, ou la vieillesse, enfin, n'importe quoi. Et vous dites, mais comment ça se fait que je puisse être comme ça, quoi? Puis, il y a une petite voix qui me dit à l'intérieur, mais Étienne, tu manques de foi. Il n'y a pas longtemps, je sais pas, il y a une structure d'État, là, ou plus ou moins, qui nous sollicite à la maison, et ça m'a rendu tremblant comme une feuille morte. Je dis, mais, et ça a mis un certain temps pour que je reprenne sur moi. Et puis je me dis, mais enfin, Étienne, tu as confiance en Dieu? Oui, mais d'accord, mais j'ai confiance en Dieu, mais il faudrait quand même que je fasse quelque chose. Il faut quand même que j'agisse, là. Il faudrait que je fasse une lettre à un huissier, ou je sais pas, il faudrait faire quelque chose, quoi. Je me suis dit, après, avec mon épouse, bon, est-ce qu'il faut se calmer ou pas? Oui, je pense qu'il fallait se calmer. Et petit à petit, le calme est revenu. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut que je fasse et que je place ma confiance dans le Seigneur. Certains s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, hein, on a entendu ça dans une prière, hein, et nous, nous nous confions dans le Seigneur des armées, hein, de celui qui est le plus solide. Alors, on peut parfois dire, oui, tu sais, mon frère, ma sœur, il faut que tu aies la foi. Hein. Et puis nous, quand ça nous arrive, et puis qu'on est en tremblant, on se dit, j'aurais peut-être pas, quand même pas dû dire à un tel qu'il devrait avoir la foi, il faudrait d'abord que moi je l'aie cette foi. Et donc, on est toujours dans une situation de solidité, quelquefois, on se sent bien, on dit, j'ai la foi, et on le sent, on a la foi. J'aime bien rappeler ce terme que l'on utilise dans Timothée et aussi dans Jacques, qu'on est en train d'étudier. Hypomone, qui veut dire je suis sous le repos. Je suis sous le repos, qui se traduit en français. Le grec a dû être traduit en français d'une certaine manière. Le terme hypomone a du mal à être traduit en un seul mot. Être sous le repos de Dieu, dans le principe du repos de Dieu, dans le principe du repos de sabbat, qui est le véritable repos de sabbat. Et dont l'Épître aux Hébreux nous parle, certains pensaient être dans le repos, n'étaient pas dans le repos, et Dieu amène le repos. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la patience ou c'est de la foi? Et donc, hupomone, on pourrait presque dire aussi qu'on peut le traduire par la foi, c'est-à-dire le fait d'être campé sur un roc, sur le rocher des siècles, sur le roc séculaire. Mais c'est facile de dire, moi je suis costaud, je suis dans la foi de Dieu et je suis bien content d'être sur le roc. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que en disant cela, je fais une dérive dans mon âme. J'ai confiance en Dieu ou tout d'un coup, c'est parce que je suis content de sentir que je peux faire confiance en Dieu que j'abandonne Dieu pour voir ma foi comme une qualité que j'aurai et qui me fait pouvoir résister à l'épreuve. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais notre foi, comme certains l'imaginent dans ce monde, elle est une foi en soi, ou elle est une foi, la foi, Or, quand nous parlons de la foi, c'est la foi dans notre bien-aimé Sauveur qui nous a sauvés par grâce et qui nous a libérés de notre péché, qui nous permet d'être campés sur le roc et de dire « Hé, peut m'arriver n'importe quoi, je suis solide. » Vous voyez, le problème c'est « Je suis solide, mais ce n'est pas moi qui suis solide. Ce n'est pas toi qui es solide. C'est le Seigneur qui est solide sur lequel tu es campé. » Et j'ai quand même l'impression de temps en temps qu'il y a une dérive dans mon cœur. C'est moi qui suis solide. Non, non, c'est pas moi, c'est lui. Voilà. Alors, quel est le regard que nous portons sur ce que nous voyons? Parce que c'est lié à la foi aussi, ça. Vous avez une agression, elle est là, vous la voyez. Et vous voyez ça, et cette chose que vous voyez devant vous est tellement énorme que vous ne voyez plus Dieu, vous ne voyez plus que ce truc-là. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. C'est quoi la réalité? Quelle est notre vision de la réalité? Et c'est pour ça que je vous ai dit, le titre, il est banal, c'est la foi. Quelle est notre vision de la réalité? Je voudrais vous encourager, comme moi-même, à ce que l'on regarde au-delà du visible. Et je vais donc essayer de vous parler de cette notion de la foi, telle que je la ressens, et en conclusion, je vous donnerai un exemple d'attitude, celle du psaume 114. Le psaume 114. Alors, la vision de la réalité, c'est quoi? En effet, la foi en Dieu nous permet de croire à plus de choses qu'à celles que nous percevons naturellement. Je répète, la foi en Dieu nous permet de croire à plus de choses qu'à celles que nous percevons naturellement. C'est dans la lettre aux Hébreux, je vais plagier M. Pascal Stas, je vais reprendre un peu l'épître aux Hébreux. Et puis, dans le chapitre 11, vous le connaissez, au verset 3, nous lisons, si nous lisons, nous comprenons que nous ne voyons pas tout. Une partie de ce qui existe nous échappe. Cette partie échappe à notre perception naturelle. Alors notre perception naturelle, c'est quoi? C'est l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Lié à tous ces organes, l'oreille, l'œil, la langue, les petits doigts, etc. Ça peut être aussi... des choses que le sens de l'équilibre, par exemple. Vous savez que vous fermez les yeux, normalement, vous avez des systèmes internes qui vous permettent de rester debout. Vous savez que vous êtes debout. Ou alors, la perception du corps. Vous savez que si vous faites ça, vous allez toucher votre nez sans... Il y a aussi d'autres choses que nous avons. Il y a aussi, par exemple, l'électrosensibilité. Il semblerait que certains sont plus électrosensibles que d'autres. Tant mieux pour eux, ou plutôt tant pis pour eux, La perception d'une présence invisible. Il paraît que lorsqu'on est dans le noir, nos muscles ont des capacités, alors à contrôler, mais il paraît, nos muscles ont des capacités à sentir les masses, la gravitation, si vous voulez. On a plusieurs sens, on a beaucoup plus de sens que les cinq sens. Mais ce sont toujours des sens. C'est ce qu'on appelle, le visible, ce que nous percevons. Mais en dehors de ça, il y a peut-être des choses que... Bon, des ressentis psychologiques, par exemple. Ça fait partie aussi de notre personne. Ou des ressentis spirituels, des intuitions spirituelles, qui font partie aussi de notre personne. Mais la foi, c'est des choses sur des choses invisibles. Nous ne voyons pas tout. Nous savons que nous ne maîtrisons pas tout. Nous le savons, nous ne sommes pas tout puissant. Un seul est tout puissant. Et donc, dans Hébreux, au chapitre 11, verset 3, que nous allons lire, il nous est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers ou le monde a été formé par la parole de Dieu. Traduction de Louis II. Traduction en français courant, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Hein? Ça, nous savons. Hein? Nous savons. Mais nous l'avons appris pour rappeler les choses. C'est à partir du 19e siècle que les gens, les scientifiques, ont commencé à réfléchir là-dessus. Je ne pense pas avant, pour s'apercevoir que la matière ne vient pas du visible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible en parlait déjà bien avant. Le terme utilisé pour univers, c'est un terme qui parle également de temps, qui parle d'espace, qui parle de période, de période géologique, par exemple, ce genre de choses. Je ne suis pas pour commencer à calculer les âges en fonction de ce que nous disent les géologues, mais ce terme est assez... Encore comme, par exemple, la patience et puis la foi, hypomoné en grec, ils ont quelques acceptions qui ne sont pas... où le traducteur a dû choisir, quoi. Et donc, celui qui a traduit second, il a bien traduit. Il a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers ou le monde a été fait de choses qui ne sont pas visibles. Mais on pourrait presque dire l'espace-temps, parce que ça parle du temps aussi. Le terme aionos, en grec, parle du temps. Il parle de l'espace. Donc, je pense que ce serait super si on pouvait traduire comme ça. Et puis, le terme « reconnaître », nous reconnaissons, c'est nous prenons conscience que. Donc, ce n'est pas de ma propre initiative, avec mes capacités scientifiques, que moi, tout d'un coup, j'ai bien compris que l'univers a été fait de choses qui sont invisibles. Non, c'est une prise de conscience qui semble plutôt, dans le texte, quelque chose qui veut dire... J'ai spirituellement compris, d'abord, que je ne savais pas tout, et que les choses viennent de bien plus loin que ce que nous percevons, même si nous avons plein de capacités de perception. Il y a en effet une attitude générale chez nos contemporains, et qui peut-être, et que nous avons apprise, nous, à l'école, qui peut être expliquée de cette façon-là, j'ai tout vu, j'ai tout compris, c'est peut-être un peu méprisant, mais il y a des gens qui pensent comme ça. J'ai tout vu, j'ai tout compris, j'ai cerné mon problème de A à Z. Comme si avant A, il n'y avait rien, et après Z, il n'y avait rien. Et voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est un peu cette notion scientifique que nous apprenons à l'école, et qui nous dit, quand tu as un problème, tu l'as, il est adiabatique. Qu'est-ce que tu en penses? Adiabatique, pas mal. Donc, il y a en effet cette attitude générale et qui a quelque chose de prétentieux quand même. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Prenez les témoins d'un accident. Ils vont tous dire qu'ils ont tout vu. Enfin, certains. Ils vont dire, si, c'est comme ça. Ils n'ont pas tout vu. Et donc, ceux qui vont faire l'enquête vont cumuler tous les témoignages pour finalement constituer quelque chose qui sera bien plus exhaustif qu'un seul témoignage. Exemple, les évangiles. Chacun a vu son truc, et puis on ramène les évangiles, et puis on a une explication de la vie du Seigneur Jésus, et encore, on n'a pas grand-chose, puisque le Seigneur Jésus, il a dû parler souvent quand il marchait avec ses disciples, et tout ça, on en a probablement, je ne sais pas, 10, 20%. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout compris. La foi implique d'abord que nous avons pris conscience que nous ne sommes pas omniscients, ni omnipotents, ni omniprésents. Nous ne savons pas tout, nous avons besoin de l'autre pour connaître d'autres choses. J'ai besoin de vous pour que, au travers de vous, je connaisse. Et puis, vous avez besoin de moi, nous avons tous besoin les uns des autres, et nous sommes interdépendants. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il l'a voulu ainsi, probablement pour notre orgueil, pour mon orgueil, pour le vôtre, pour que nous apprenions la foi, ce que c'est. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est quand même curieux, la foi. C'est vraiment un drôle de truc. Donc nous sommes dépendants de qui? Et dans 1 Pierre 2, chapitre 2, 1 Pierre 2, verset 1, il nous est dit, si je ne me suis pas trompé, sa divine puissance, 1 Pierre 2. Je crois que j'ai dû me tromper. Deux Pierre un. Oui, c'est ça, sa divine puissance. Mais en fait, excusez-moi, je crois que j'ai dû me tromper. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut qui a été, pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est quoi c'est ? 1 Pierre 2, 1. Ah, voilà. 1 Pierre 2, 1. Ah, bah oui, c'est ça. Excusez-moi, je trempe comme une feuille morte pour ça. Hein? Voilà. Afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, il y a quelque chose de curieux, hein, c'est j'ai la foi et je peux rester passif devant Dieu en disant le Seigneur me fera comprendre ce que je dois faire. Et nous avons ici l'apôtre Pierre qui nous dit bon, tu te prends en charge maintenant, hein, d'accord, tu as la foi. Alors si tu as la foi, vas-y, relève tes manches et dis pas j'ai la foi, et puis tu attends que Dieu te dise que quoi. Quelque chose. Ben non, ici il nous est dit, allez, vas-y, tu rejettes toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie, etc. Et tu désireras, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par ça, tu puisses grandir dans la foi. Voilà. Tu puisses grandir pour le salut, oui, bien sûr, mais pour la foi. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas goûté que le Seigneur est bon. Ça s'adresse à ceux qui ont vraiment compris qu'il était vraiment bon. Et à ce moment-là, il se met à dire, mais bon, j'ai arrêté d'être méchant. J'ai arrêté de ruser. Je vais essayer d'être authentique. Et alors, c'est un grand boulot, quoi. Enfin, pour moi, c'est un très grand travail, tout ça. Parce que, est-ce que je suis entièrement pur et entièrement dans la vérité quand je te parle, mon frère, quand je te parle, ma sœur? Voilà, c'est ça. Alors, je désire le lait spirituel est pur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le petit enfant, si vous voulez, je paraphrase d'une autre façon, le petit enfant, il est dépendant de son père et sa mère. S'il a la chance de trouver un endroit où il y a de l'amour, ce qui est normal, disons, dans une famille, il va apprendre naturellement à être dépendant de papa et de maman. Parce que papa et maman, il a remarqué que papa et maman, ils l'aiment. Ils désirent son bonheur. Quelquefois, l'enfant peut même comprendre que papa et maman désirent le rendre indépendant d'eux-mêmes. Indépendant de papa et maman. Mature. Capable de se débrouiller tout seul dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est ce que les parents veulent pour leurs enfants. Papa et maman ne sont pas possessifs. Ils cherchent à faire de leur enfant un homme ou une femme parfaite. Complètement accompli. Mais ça se fait pas tout d'un coup. Hein. Vous avez remarqué, quoi. Ça ne se fait pas tout d'un coup. Il y a un processus. Et ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Le petit va devenir un homme ou une femme mature après avoir placé sa confiance intelligemment en un tel et un tel. Dans la vie, hein. Un tel et un tel. Il va juger de ces choses. Il va placer sa confiance là plutôt que là. Et il va refuser certaines confiances à certaines personnes. Et en particulier, il va grandir comme ça. Bon, ça a l'air d'être laïque comme enseignement, mais on sait que la personne à laquelle on doit avoir le plus confiance, qui est digne de confiance, c'est non seulement notre papa et notre maman, mais aussi le Père Céleste, qui est en même temps un papa et une maman. Hein? El Shaddai, c'est celui qui a des mamelles pour nourrir. El Shaddai. Elion, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, il est papa et maman en même temps, quoi. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Enfin, Dieu, il a créé l'homme à son image, donc on peut s'imaginer qu'il y a forcément des similitudes. Donc, dépendant de qui ? Dépendant de Dieu. Dans Galates, chapitre 4, verset 19, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'offrontement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Hein ?» Ils sont retournés à la loi, vous savez. Bon, voilà. Donc, dépendant de qui ? Dépendant de Dieu. Et dépendant de l'apôtre Paul, qui, lui, souffre les douleurs de l'enfantement comme s'il était le papa et la maman, hein, pour ses enfants bien-aimés de Galate, de Galatie, qui, je vous le rappelle, sont des Gaulois. Alors, en résumé, la foi, ça peut être, pour certains, et à vous de choisir, j'ai tout vu, j'ai tout compris, je connais tout, je n'ai besoin de personne, parce que je place ma foi en moi. C'est comme ça que ça marche dans ce monde. Et la foi, ça peut être, j'ai vu des choses, j'ai compris plein de choses, je reconnais que j'ai encore besoin d'apprendre. Et pire, que j'ai besoin de désapprendre. Et que j'ai toujours besoin de quelqu'un qui me redirige, me rectifie et m'éclaire sur mes zones d'ombre. Je place ma foi, non pas en moi, mais en toi. Ce qui est une preuve d'amour. En toi. Toi, qui me regarde, mais en toi aussi, un autre toi. Le toi, ça peut être donc le toi qui m'écoute, mais c'est principalement le grand toi. Et quand on dit le grand toi, Théoï, c'est bien, on sait de qui on parle. Mais ce grand toi, Théoï, il est aussi un grand toi avec un T au bout. En français, c'est bien. Hein. Le grand toi avec un T au bout, c'est-à-dire le toi. Quelque chose qui nous protège, pour te protéger véritablement de l'adversité. C'est le refuge. Vous prenez le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons pas la terre quand elle est toute chamboulée, toute bouleversée. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, et quand les flots mugissent en écume, qui se soulèvent jusqu'à faire trembler des montagnes, vraiment faire trembler les montagnes. Donc, on sent dans ce psaume 46, que c'est quelqu'un qui a dû trembloter légèrement, et qui a même vu les montagnes trembler. N'est-ce pas ? Et on sent qu'il a compris que le refuge, c'était en Dieu. Alors, notre foi, c'est ça. Christophe nous a lu le psaume 46 dimanche passé. Hein ? Donc, la foi, c'est cette capacité à rester maître de soi, impassible, solide, face à l'adversité. Alors pourquoi, à votre avis, Dieu nous envoie l'adversité ? On pourrait éviter d'avoir à parler de ça, mais bon. Est-ce que parce qu'il veut nous faire souffrir ? Et on le sait, c'est non. Et la réponse se trouve un peu partout dans la Bible. Et le passage de la mer Rouge, par exemple. C'est facile pour nous de dire, bon, ils n'avaient pas la foi. Mais on essaye de se remettre dans le contexte. Si vous êtes rationnel et que vous êtes sur une plage face à la mer et avec dans la vallée entre les montagnes toute l'armée de l'Égypte qui arrive sur vous, vous ne pouvez pas dire oui, moi j'ai la foi, ça marche, allons-y. Il n'y a plus rien à faire. Logiquement, intelligemment, il n'y a plus rien à faire. Ils vont être noyés, soit ils vont être tués ou repris en esclavage. Et les chefs vont être certainement exécutés. Voilà. Il n'y aura plus personne. C'est fini. Et ça, c'est la situation dans laquelle je me trouve parfois. Et dis, ça y est, pff, voilà. Hein ? J'en suis là. Oh, tiens, t'as pas la foi. Hein ? Ben oui. Mais est-ce que je vois ce qu'il y a derrière l'invisible ? Ben, à ce moment-là, je peux avouer que je ne l'ai pas, cette vision de l'invisible. Voilà. Dans 1 Pierre 1, alors là, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein, 1 Pierre 1, chapitre 1, versets 4 et 5, il nous est dit, un héritage, il ne peut pas se corrompre. On a un héritage, il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas se souiller, il ne peut pas se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé à la fin des temps, hein, à être révélé dans les derniers temps. Nous avons un grand trésor, nous avons un héritage, une espérance extraordinaire, bien vivante, verset 3 nous est dit, hein, pour une espérance vivante, bien vivante. Et au verset 6, il nous est dit, c'est à cause de tout ça, que nous sommes dans la joie. Ouais, bon, oui, je suis pas toujours dans la joie, mais nous sommes toujours dans la joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il le faut. Vous soyez attristés par plusieurs épreuves. Alors, on a la réponse à la question que je vous posais, mais pourquoi Dieu nous... Il a envie, enfin, il a envie, je ne sais pas s'il a envie, mais disons, Dieu nous envoie de l'adversité. Il nous est dit ici pour ça. C'est là ce qui fait votre joie, toute cette vision que nous avons qui est en dehors du visible. C'est totalement invisible ce que nous avons comme vision là. Et nous avons la foi là, oui. Et il nous a dit, verset 6, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, on le connaît par cœur, hein, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, la louange donnée à Dieu, la louange que Dieu nous donnera, la gloire que Dieu nous donnera, l'honneur que Dieu nous donnera, et c'est en même temps la louange, la gloire et l'honneur que nous donnerons à Dieu. Ouais. Eh bien moi, je suis loin de là, je vous l'avoue, mes frères et sœurs. Il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous savez, vous êtes attristés pour un peu de temps par ces diverses épreuves, afin que cette épreuve de la foi arrive à un résultat. Et ce résultat, nous ne le verrons pas tout de suite, nous le verrons dans les cieux. Donc, la foi et l'épreuve sont liées. Dieu utilise l'épreuve pour que notre foi se développe. Et je le remarque chez moi, je ne vais pas dire que je suis un homme de foi, non, mais qu'il veut développer chez moi cette attitude de regarder en dehors du visible. Le visible, oui, mais pas que le visible. J'ai les cinq sens, j'ai d'autres intuitions et machins comme vous, mais en dehors de tout ça, il y a encore des choses qui sont complètement en dehors de la perception possible, mais qui sont là. Donc je vous ai donné mon exemple, j'étais un petit peu comme ça, un peu tremblant, et puis je me suis dit, mais non, enfin... Bon, et j'ai l'impression que Dieu m'a répondu quelque part, parce que dans les événements... De ces derniers temps là, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme un blocage ces autorités là qui bon bref, je vais parler d'autre chose. Donc maintenant en conclusion, nous allons lire le psaume 114, hein, avec le même état d'esprit et de foi que durant notre méditation d'aujourd'hui. Enfin, il faudrait peut-être quand même qu'avant je vous reparle d'Hébreux chapitre 11. Je vais quand même vous en parler. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, ouais, ça va. Alors, voilà. Hébreux, chapitre 11. On commence par Abel. Abel, il avait la foi. Il nous a dit qu'il avait la foi. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait grand-chose, semble-t-il. Il a tué un animal et puis il a donné en sacrifice plusieurs animaux pour les donner en sacrifice devant Dieu. Son frère n'a pas fait la même chose, vous savez ce qu'il a fait, il a découpé certainement des légumes et tout ça, il a fait un beau petit truc, une sculpture peut-être, j'en sais rien, en légumes, et toujours est-il que ça n'a pas plu à Dieu. Eh bien, Abel dit, en fait, et nous le voyons puisqu'il est dit que Dieu a approuvé ses offrandes, au verset 4 du chapitre 11, que Dieu a approuvé ses œuvres, hein, ses offrandes, des œuvres qui sont des preuves de foi. Hein. Eh bien, cet Abel... Il a dit en gros, hein, en résumé, il a dit ceci. Je vois une expiation qui existe, qui n'existe pas encore, mais qui existera un jour. Hein, Abel, c'est un des exemples qui est donné, et il nous est dit plus loin dans l'Épître aux Hébreux, hein, n'est-ce pas Pascal, qu'ils avaient en vue des choses qu'ils ne voyaient pas, ils sont même morts sans le savoir, sans les avoir, tout en sachant qu'elles viendraient. Et donc, Abel, c'est un des premiers, enfin, c'est probablement le premier, à moins que Adam et Ève également aient eu ce genre de comportement. Il dit, je vois une expiation qui n'existe pas encore, mais qui existera un jour. Bien plus tard, mais qui existera un jour. Il a une vision de, vraiment, pas de la réalité, mais du réel. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire la différence entre le réel et la réalité. Disons que nous, on voit quelque chose, ça nous paraît être la réalité, et il n'y a rien d'autre qui semble être derrière, comme ces pauvres Hébreux sur la plage, ils n'étaient pas en train de se baigner, et ils étaient là, dans des situations précaires. Mais, plus loin, il y avait quelque chose. Alors, il y en a un autre aussi, c'est Enoch. Et il nous est dit dans cette partie pour Enoch, il nous est dit, verset 6 hein, de chapitre 11, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. » C'est vrai que Dieu, on ne le voit pas, mais il faut qu'on y pense. Hein, « Et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. » Il nous est dit qu'Enoch fut enlevé, hein, il n'a pas vu la mort, il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Parce que avant son enlèvement, il avait eu le témoignage, lui aussi, comme pour Abel, qu'il était agréable à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Enoch ? Eh bien, nous voyons dans Jude, au verset 14 et 15, qu'il avait déjà une vision du jugement dernier. Vous verrez dans Jude, on ne va pas le lire, ce n'est pas la peine, Jude, c'est vite fait de voir Jude, hein, il n'y a qu'un seul chapitre, versets 14 et 15, il y a un jugement dernier qui va tomber sur le monde. Et donc, Enoch savait ça. Il le savait. Voilà. Après Noé, vous savez, bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il voyait les choses invisibles. Il y avait peut-être des nuages de temps en temps. Il n'y avait peut-être même pas de nuages à l'époque. Certains disent qu'il n'y en avait peut-être pas. Enfin, toujours est-il que l'eau est arrivée, personne ne l'imaginait. Et Noé, lui, il le savait. Bon. Abraham, etc. Enfin bon, vous en avez d'autres, hein. Dans tout ce chapitre 11, on parle finalement de l'invisible. Il nous est dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit, partit, sans savoir où il allait. Donc, il a confiance en Dieu et il ne voit pas du tout quel est l'objectif et son point de destination. S'il avait eu un GPS, il aurait été embêté. Eh bien, voilà. Ils sont tous morts, verset 13, sans avoir obtenu les choses promises, mais sachant qu'elles sont réelles. Lorsqu'il lui a offert son fils, il a même imaginé que Dieu pouvait le ressusciter. On en a déjà parlé. Isaac et Jacob ont fait la même chose. Ils n'ont pas fait grand-chose d'autre que simplement croire en la promesse de Dieu. Voilà. Moïse, de même, il nous est dit qu'il a tenu ferme parce qu'il voyait, verset 27, celui qui est invisible. Donc tout ce chapitre 11 parle de la foi, bien sûr, mais en disant... ils ne se sont pas contentés du réel et ils ont l'humilité de dire « Je ne suis pas tout, je ne vois pas tout, je ne sais pas tout. Et il y a quelque chose de plus que ce tout que je connais. » Et puis, c'est pas fini, il y en a eu d'autres. Les murailles de Jéricho qui sont tombées. Et puis, il y en a plusieurs autres là dont j'aurais envie de vous parler. Hein, c'est Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, etc. Bon. Alors simplement, pour vous parler de Barak, Gédéon, on sait, hein, on a tellement l'habitude d'en parler pour les enfants, ou même en parler, hein. Le visible, Gédéon avait du mal à voir le visible, et donc il a fallu que Dieu lui montre ce qu'est le visible, par un petit pot de bête qui était dans un champ qui était soit mouillé, soit sèche. Hein. Bon. Mais pas que cela, c'est que Gédéon, après, a compris qu'avec 300 personnes, il pouvait aller contre une foule de personnes. C'est insensé, c'est irrationnel, c'est la foi, c'est la folie de la foi, oui, mais il en était là. Il a réussi, à un moment donné, à faire confiance à Dieu à ce point-là et d'être campé sur cette certitude de Dieu. Alors, Gédéon, on voit. Hein. Après, pour Barak, c'est un peu plus difficile. Si on cherche, vous lirez, hein, on ne va pas le lire ici, c'est dans les juges, hein, vous savez bien. Hein. C'était 10 000 hommes d'Israël contre 900 chars de fer de Sisera. Alors on se dit, ouais, ben, normal, 10 000 contre 900 chars, on y gagne. C'est nous. Ben non, pas du tout. Imaginez que vous avez des chars, c'est arrivé dans certaines périodes tristes de l'histoire où vous avez des gens qui arrivent d'une ethnie, je ne sais pas laquelle, mais enfin, je ne vais pas vous donner d'exemple, il y en a plusieurs hein, en Amérique, aux États-Unis, en Afrique, etc. Puis ils arrivent avec leurs cavaliers, avec leurs chevaux, là, contre les ennemis, puis les ennemis, ils ont des canons. Hein. Puis ils ne savent pas ce que c'est, alors puis les canons, puis pouf, c'est la boucherie, quoi. Hein. Ah, ils croisaient qu'ils étaient forts. Mais non. Et là, c'est la même chose. 10 000 hommes d'Israël devant 900 chars de fer de Sisera, ceux qui gagnent, c'est les 900 chars. Ils écrasent, ils passent, c'est des gros, gros machins, des chars d'assaut. Hein. Et ils n'ont pas de canon encore à l'époque, mais c'est des gros trucs, quoi. Sisera, il était le maître du monde à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on dirait le maître du monde, c'est celui qui a la bombe atomique. Ben, c'est à peu près la même chose, quoi. Hein. Bon. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais enfin, voilà. Enfin, c'était la technologie moderne, si vous voulez, de l'époque. Et Barak s'oppose à la... Enfin, il est encouragé par Déborah, qui lui dit « Non, tu vas gagner. » C'est pas possible. La technologie moderne ne me permet pas de dire que je gagnerai. Mais si, Déborah lui dit si, tu vas gagner. Voilà. Et Barak arrive à gagner. Parce qu'il a la foi dans l'invisible. Il ne regarde pas simplement les chars de fer, mais il comprend que Dieu va le faire gagner. Samson, vous connaissez aussi, lui, il avait peur de rien. Hein. Il avait peur de rien, il faisait même des bêtises aussi, mais il avait peur de rien. Pourquoi ? Parce qu'il avait Dieu avec lui, il le savait. Et puis un dernier, Jephté. Jephté, lui, il s'oppose au roi des Ammonites. Et les Ammonites lui disent « Tu me rends ce pays parce qu'il m'appartient. » Et Jephté, qui est très mal vu par les Israélites, il est israélite, mais c'est un petit rien. Jephté, c'est vraiment quelqu'un de méprisé par les Israélites. Et puis Jephté, après, on l'appelle parce que ben, il est quand même compétent en guerre, quoi. Il sait se bagarrer, quoi. Hein, voilà. Donc il l'appelle. Et puis le roi des Ammonites dit « Vous me rendez ce pays. » Et Jephté répond, et c'est ça qui montre qu'il a la foi, et c'est pour ça qu'il est ici, il répond, il dénonce l'hypocrisie des Ammonites. Et il dit « Toi, le roi des fils d'Ammon, tu dis que tu as droit à ce pays, et c'est pas vrai, ce sont les Hébreux qui l'ont conquis. Vous n'avez pas voulu qu'on passe chez vous quand nous sommes revenus du désert et qu'on a fait la conquête du pays de Canaan. Vous n'avez pas voulu et vous n'avez aucun droit sur ce pays. C'est nous qui l'avons conquis. Voilà. » Il fait de la politique et il dit « Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce que tu dis est un mensonge. Hein » Et donc il dit, hein, on voit dans Juges chapitre 11 verset 27, que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui le juge entre Israël et les fils d'Ammon. Il dit quelque chose, d'ailleurs dans une prière j'ai entendu aussi, il est le juge. Et Jephté proclame que c'est Dieu qui est juge. Et c'est pas parce que tu donnes des arguments comme quoi ce pays t'appartient qu'il t'appartient. C'est pas vrai, il ne t'a jamais appartenu, c'est le pays d'Israël. Et moi, je vais le défendre. Et puis donc les fils d'Ammon attaquent et Jephté gagne, bien sûr. Parce qu'il est avec Dieu. Donc, Jephté a montré sa foi comme cela. Vous voyez ? Bon. J'arrête là pour les exemples. Ils sont là dans l'Épître aux Hébreux pour cette raison, probablement. Hein. Donc, voilà, on arrive au psaume 114. Et ce sera ma conclusion. Psaume 114. 114, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, et puis je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est jubilatoire. C'est un psaume qui est jubilatoire et qui parle de la foi et de cette façon de voir le visible, de voir l'invisible, de voir les choses qui apparemment sont absurdes et impossibles et qui se font quand même. Et c'est ce que nous voyons là, dans le psaume 114. C'est comme si celui qui chantait ce psaume se moquait des apparences, si vous voulez. On a l'impression qu'il se moque des apparences pour regarder l'invisible. Comme s'il se moquait de l'impossible pour regarder cet impossible devenir possible et complètement réel. À la fin du psaume 113, au psaume 113, à la fin du psaume 113, il nous est dit, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards, sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Genre Jephthé, par exemple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Donc, il veut rétablir ce psalmiste 113 des choses qui sont invisibles. Il y a des choses qui paraissent absurdes et impossibles, et finalement, elles arrivent. Et alors, dans ce contexte, on lit le psaume 114. On va voir aussi le psaume 115. On ne va pas tout lire du psaume 115, on va lire juste un verset du psaume 115, parce qu'il est important aussi, ce verset du psaume 115. Mais on lit le psaume 114. Il nous est dit, « Quand l'Éternel sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple qui parle une langue barbare, Juda devint le sanctuaire de Dieu, et Israël fut son domaine. » C'est extraordinaire. C'était pas possible qu'un peuple d'esclaves puisse devenir un peuple prestigieux. C'est pas possible que moi, esclave de mon péché, je puisse devenir quelqu'un de prestigieux. Ouais, ça y est, on se sent tout de suite bien mieux. Hein. Mais non. Hein. Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Et la mère le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers et les collines comme des agneaux. C'est jubilatoire, vous voyez. C'est pas possible. Bon, les montagnes, c'est là et c'est là depuis des siècles, ça va pas bouger. Hein. Et puis le Jourdain, il ne va pas retourner en arrière. C'est pas possible pour un fleuve de retourner en arrière. Et puis une mer, c'est pas possible qu'elle se tranche et puis qu'on voit le fond. Quoi. C'est pas possible. Hein. Voilà. Psaume 114. Il dit, voilà, c'est pas possible. Ici, ça s'est passé. Ça s'est réellement passé. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? Mais enfin, c'est stupide! C'est pas possible! Mais si, ça a été possible. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et vous, collines, comme des agneaux? Mais c'est pas possible! Eh bien, si, c'est possible. Voilà. Et après, il nous a dit: tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Et nous sommes, nous, sollicités, et parfois. On se sent menacé par l'ambiance délétère de notre 21e siècle. Et puis, on se laisse prendre à ça. Moi, je dis on, c'est peut-être malhonnête, c'est peut-être moi qui me laisse prendre. Hein. Et voilà. Il dit, tremble le Seigneur devant le Seigneur, ô terre, cette petite boule-là, devant Dieu, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Alors, je veux dire, moi, dans ma vie chrétienne, ça m'est arrivé de dire, oh, les oignons et les poireaux d'Égypte étaient meilleurs. Quand j'avais soif dans le désert, je disais, mais comment ça se fait que Dieu ne donne pas de l'eau à boire? J'en ai marre. Je ne suis pas bien. Et puis, voilà comment ça se passe. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Qu'est-ce qu'il a fait de ces symboles de chrétiens qu'étaient les Israélites? Ils n'étaient pas chrétiens, mais c'était ce symbole que nous avons, nous. Il nous est dit dans les Hébreux que s'il leur est arrivé toutes ces choses, c'est pour que nous puissions réfléchir. Parce que nous sommes passés par le Jourdain. Nous sommes passés par les eaux du baptême, de la mer Rouge. Nous avons été sauvés de l'Égypte et nous avons mangé la Pâque, la véritable, celle de Jésus. Oh, c'était quand même bien, hein, les oignons et les poireaux d'Égypte. Ça vous est jamais arrivé, non? C'est fatigant d'être chrétien quand même, parce que quelquefois on a soif, on a envie de se prendre du bon temps. Et vous voyez, notre vie chrétienne est oscillatoire. Elle devrait être la pente toujours bien pentue et bien continue qui va vers la cité céleste. Eh bien, ça fait plutôt ça, quoi. Hein. Mais on peut dire que c'est oscillatoire, mais en montant quand même. Hein. Ça nous rassure, quoi. Mais quelquefois, on peut faire des grands trous, hein, et puis des grandes bosses. Mais voilà. Et tout, tout, tout. Voilà. Le Seigneur, je crois qu'il préfère avoir des amortisseurs. Vous savez, les amortisseurs sont faits pour éviter les oscillations, et il voudrait être un amortisseur, mais là-dedans, il y a des problèmes avec moi. Hein. Et donc, voilà. Donc c'est un psaume jubilatoire. Dieu est au-dessus de toutes les nations. Alors, le début du psaume 115, conclusion, c'est « Oh là là, qu'est-ce que j'avais la foi ? J'ai gagné. J'avais la foi dans telle circonstance. Qu'est-ce que je suis costaud quand même. » Eh bien, nous avons Dieu qui nous dit, au psaume 115, « Pas à tout, pas à nous, Seigneur. C'est pas à nous tout ça. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi ? À cause de ta puissance, à cause que toi tu as des chars qui sont de fer, plus de fer que d'autres. Non, 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 non. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Il fait tout ce qu'il veut. Pour quelle raison ? Parce que ce psaume 115 nous rappelle une chose, ce n'est pas à nous d'être fiers de notre foi, ce n'est pas à nous, mais à Dieu, le grand toi, Théoï, Théoïté. C'est lui qui doit recevoir la gloire. Pour quelle raison ? Parce que papa et maman t'aiment, et ils sont bons avec toi et ils sont fidèles. Pour quelle raison ? Parce que le Père Céleste t'aime, et qu'il est bon et il est fidèle. Place donc ta foi en lui, plutôt que d'être bouleversé par toutes les apparences, qui ne sont là que pour solidifier ta foi. Amen. Nous prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, combien ma foi est si petite, combien je confesse qu'elle est tellement petite par rapport aux événements qui arrivent, et je te remercie pour les événements que tu donnes, parce qu'ils sont là justement pour augmenter ma foi. Je te remets tous mes bien-aimés, Seigneur, tout cet amour que nous avons les uns avec les autres, toute cette dépendance que nous avons les uns envers les autres, ne peuvent fonctionner que si toi, tu es au centre. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen.